Fix. Les actualités Cogeco Nouvelles.
Mercredi 24 avril, ici Valérie Leboeuf, voici les nouvelles. Bon après-midi, mesdames, messieurs. D'abord, les employés de la SAQ sont dans la rue aujourd'hui. La précarité s'inscrit au cœur des revendications des travailleurs de la Société d'État. Après un an de négociations, ils exercent leur droit de grève pour deux jours.
Semaine, on peut avoir 12 heures. Semaine, on peut avoir 30 heures. C'est difficile de faire un budget avec ça.
Savoir si je vais travailler dans deux semaines.
Je viens de rentrer il y a un mois et je trouve que c'est très important parce que ça prend quand même 12 ans à être temps plein.
Il y en a pour qui les horaires, c'est dernière minute, c'est pas le fun. Ils sont à l'école en plus. Faut le faire. Peu importe la température, faut être là.
On essaie de marquer le coup pour faire comprendre qu'on veut que les choses avancent.
Faut reconnaître le travail qui est fait, le travail important qui est fait par les conseillers, par les gens sur le plancher.
Ah, ben garde, pour défendre nos droits, là, tu sais.
Seulement une quarantaine de succursales sont ouvertes à travers la province. Le corps de Jesse Duchesneau, le Gaspésien de 19 ans, qui manquait à l'appel depuis plus de 7 mois, aurait été retrouvé dans le fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de Bellechasse. Il avait été vu pour la dernière fois le 4 novembre, près de la rue Dupont, à la sortie du bar Midnight Blue, dans le quartier Saint-Roch, à Québec. Sa cousine Ariane Duchesneau.
Une délivrance, là, malgré, comme je disais, là, toute la tristesse que ça engendre, là, c'est vraiment une délivrance, là, surtout pour mon oncle et ma tante. Malgré que c'est pas le dénouement qu'on aurait voulu avoir, ben au moins on sait qu'il peut plus être n'importe où, là, on sait qu'est-ce qu'il y en a.
Rappelons que son téléphone cellulaire et sa casquette avaient été retrouvés dans un stationnement souterrain du secteur Saint-Roch. Originaire de Passepébiac en Gaspésie, il était à Québec pour y fréquenter des bars avec ses amis. La présence policière augmentera considérablement partout au Québec d'ici le début du mois de mai afin de sensibiliser les gens à la sécurité routière. Tous les corps policiers de la province vont participer à cette opération nationale concertée. Philippe Bonneville.
Des centaines d'automobilistes et des dizaines de piétons meurent chaque année au Québec lors de collisions routières. Un lourd bilan qui doit être amélioré selon les corps policiers qui s'unissent et qui intensifieront grandement les interventions et les opérations de visibilité sur l'ensemble du territoire pour une semaine à partir de vendredi. Francis Bernardin de la SQ.
Lorsqu'ils voient une présence policière accrue, vont sensibiliser davantage à l'adoption de comportements sécuritaires et responsables.
Tous les corps policiers dans toutes les régions de la province vont participer à cette opération nationale concertée qui mettra l'accent cette année sur la protection des cyclistes et des piétons.
C'est sûr que les endroits qui vont être davantage ciblés, on parle d'endroits où il y a un partage de la route qui se fait.
140 piétons sont décédés au cours des deux dernières années au Québec. Philippe Bonneville pour Cogeco Nouvelles.
L'entrevue d'une lanceuse d'alerte la semaine dernière à propos du manque de soins dans les CHSLD des Laurentides provoque des réactions. Les langues se délient, comme l'explique Justine Vachon.
Parmi les dizaines de dénonciations reçues d'employés qui dépeignent des conditions de vie déplorables d'aînés, une infirmière auxiliaire tenait à lever le voile sur ce qui se passe au CHSLD de Sainte-Agathe en manque flagrant de personnel. Catherine Hamel, qui jure n'avoir jamais rien vu de tel en 11 ans d'expérience, a même insisté pour alerter la population en entrevue. Même si le 6 des Laurentides assure que tout est fait pour assurer les soins et que la ministre Sonia Bélanger dit suivre la situation, cette lanceuse d'alerte dit le contraire haut et fort.
Cette négligence-là peut engendrer des décès.
L'infirmière va même plus loin en affirmant que les dirigeants savent très bien que les personnes âgées sont silencieuses et isolées.
On n'a pas cette part de vieux qui va faire « Hey, c'est pas correct, là. » C'est comme si le gouvernement s'en sortait.
Pour elle, le silence n'est plus une option et il faut à tout prix défendre ses patients qui en sont condamnés. Justine Vachon, Cogeco Nouvelles, Laurentides.
Et sauver les pailles de plastique, voilà une mission que s'est donnée le Parti conservateur du Canada qui lance une pétition pour la cause. Au même moment, à Ottawa, des représentants de 176 pays sont réunis pour le quatrième cycle de négociations visant à créer un traité mondial pour éliminer les déchets plastiques. Vous écoutez.
Suivez Michel Turcotte à CFX FM 93.
Il y a une approbation aussi là, pour ajouter une zone d'interdiction de stationnement. Et là, je vous dis où, et ça va déranger pas mal de monde. Dans le secteur de la rue Léonidas Sud, ben, il y a le Lab École, juste à gauche. Mais plus bas que ça aussi, il y a la fameuse maison des aînés. Je ne sais pas comment on a pensé à ça lorsqu'on a dessiné les plans de cette maison des aînés. Mais toujours est-il là, que le stationnement est très petit, au point où il y a plein de monde là, qui vont stationner dans la rue Léonidas, des deux bords de la rue. J'ai passé par là, là la semaine dernière et j'ai vu ça. Et là, imaginez-vous qu'on stationne aussi là dans d'autres rues, comme la rue Gratien-Gélina et la rue Madeleine-Glisson. Donc, pour aller travailler, tout simplement parce que le stationnement à la Maison des aînés est trop petit. Donc là, la ville a décidé de régler le problème en ajoutant une zone d'interdiction de stationnement sur cette rue-là.
La chronique municipale, tous les lundis, 7h45. Une présentation de TMS Solutions.
Au prochain tirage du Loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 36 millions. Ouais, ça brasse dans le boulier.
C'est Fix 93, son équipe et le studio McDonald, un trio de champions.
Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans Réserve. Sans Réserve. L'émission d'affaires publiques. Voici Luc Ferrandez.
C'est la troisième heure de l'émission, puis on la terminera avec Sylvie Lavallée, qui est sexologue et psychothérapeute. Une discussion qu'on a déjà eue et qui porte sur un article du Journal de Montréal qui couvre un sondage qui a été fait par l'UQTR, je crois, qui indique que finalement, les gens consomment plus de porno qu'ils ne le disent. Beaucoup plus, dans le fond. C'est 90% des personnes entre 16 et 29 ans qui en consomment. Puis... que les fantasmes avoués, par exemple, par les femmes sont différents des fantasmes avoués par les hommes, mais que quand on regarde la consommation de pornographie, c'est à peu près la même, et que là-dedans, il y a pas mal de toutes sortes d'affaires, tu sais, puis que c'est pas juste c'est pas juste la porno romantique. Ceci étant dit, il manque, selon Sylvie Lavallée, de porno romantique. Il manque aussi d'érotisme dans notre vie de tous les jours. Et ça a donné une conversation intéressante parce que c'est très difficile de parler d'érotisme et de séduction notre siècle. Surtout lorsqu'on parle des lieux de travail ou même en règle générale avec dans les lieux publics, etc. Donc je vous invite à écouter cette discussion qui est nuancée et approfondie. Philippe Léger nous parlera du sondage qui indique que le PQ demeure premier, mais il aurait peut-être plafonné. Le QS Québec solidaire perd des plumes beaucoup. On se demande même si ça sera pas de plus en plus compte tenu du fait qu'il y aura une cristallisation du vote autour des indépendantistes d'une part et de ceux qui ne veulent pas l'indépendance d'autre part. On reçoit, parce que c'est mercredi, une entrepreneur, des fleurs cultivées au Québec toute l'année dans une région québécoise en utilisant le moins possible d'énergie, en creusant les serres pour bénéficier de la géothermie. Ça m'a l'air fascinant. J'ai hâte d'entendre ces innovateurs-là. Ça sera Aura Magie Beaulieu-Pelletier. Ah, ça, c'est une jeune, tu sais, parce que quand tu as deux prénoms puis deux noms de famille, ben, c'est parce que tu es jeune. De la ferme Pastel. Mais avant tout, mesdames et messieurs, Mickey Guerrier.
Luc Ferrandez.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Papi.
Es-tu heureux?
Évidemment.
Ouais, t'as fait tes réserves à la SAC?
C'est important, là. Oui. C'est deux jours. Hey, non, mais écoute, c'est juste deux jours de grève.
Je sais, mais tu sais qu'il y a des gens qui capotent, là. Hein? Ils se disent, oh mon Dieu, mercredi, jeudi, pas d'alcool.
Moi, j'imagine que quelques bourgeoises d'Outremont obligées de boire du vin de dépanneur.
Non, mais maintenant, il y a des petites buvettes où ils vendent des bouteilles de vin, donc il n'y a rien là.
Ah, OK, tout.
Il n'y a rien là. Tout se fait. Hey, Luc, petite pensée pour toi? Parce que je sais que toi, ton amour du stade olympique te pousse à dire qu'on le laisse crever, qu'on le démolisse, on n'en a plus besoin. et là, on a appris aujourd'hui, en fait, ben depuis hier, que on va débourser 40 millions de dollars pour décontaminer le stade. Ce qui est arrivé, c'est que lorsqu'il y a eu l'incendie il y a quelques semaines, toute la fumée a été aspirée. On parle d'un brasier, là, c'est ce qu'on disait dans l'article. Toute la fumée a été attirée ou aspirée dans le stade olympique. Ça s'est répandu dans la tour, dans les bureaux, etc. Et à partir de là, ben, il faut absolument décontaminer le stade, décontaminer les bureaux. La suie s'est installée également sur les murs. Donc, 40 millions de dollars de plus. Et ça, c'est sans compter, c'est avant même les rénovations d'environ 800 millions de dollars dont on a parlé dans le passé. Ce qui m'amène à la conclusion suivante, Luc, en lisant ça, je me suis dit, ben ça y est, je pense que j'ai trouvé pourquoi on a autant de problèmes avec le stade olympique, c'est qu'il est hanté. Voilà, il est hanté par un monstre, un gouffre financier. T'arrives avec une pièce, t'en perds 10.
Ah, c'est une sorte de casino, en fait.
C'est une sorte, en fait, de trou noir d'argent, ce stade olympique, parce que depuis la construction du stade, et moi, j'étais pas là à la construction du stade, et là, je vais pas te parler de tous les détails, de tous les rapports, de tout ce qui a été écrit, et de combien de temps ça a pris, je sais pas, pris quoi, 40 ans à payer le stade, mais je vais te parler de la légende autour du stade. C'est ce que j'entends.
On l'appelle la légende de Jimmy.
La légende de Jimmy, le stade. toi, t'étais là. Plusieurs des animateurs à la station étaient là aussi. Puis, vous allez sans doute que ça vous dit de quoi lorsqu'on parle de ces camions de béton qui entraient dans le stade, ressortaient de l'autre côté. On allait construire des chalets dans l'an. Patrick en parlait dernièrement à son émission. Plein de gens qui disaient on facturait 2-3 fois le même camion parce que on rentrait dans le stade, on sortait, on revenait, on sortait, on revenait et on chargeait en fait le béton. Tout l'argent qu'on a mis dans ce stade-là pour le toit, une fois puis une autre encore, un toit qui devait être rétractable finalement qui ne l'était pas, la tour qui devait être prête pour les Jeux qui ne l'a pas été, tous les environs du stade qu'on a quelque sorte abandonné et là le Vélodrome qui était un joyau d'installation sportive sur la planète est devenu la maison des animaux, ce qui est pas mauvais en passant. C'est correct le biodôme, mais tu sais, c'est plus ce que c'était. Et là, je me dis, là, il y a un incendie en plus. Il y a quelqu'un qui en veut au stade. Il y a une force surnaturelle. Mais tout ça pour dire que le stade, pour moi, demeure un élément mal aimé. Mais on a une espèce de rapport amour-haine aussi avec le stade.
Peux-tu faire pencher ton rapport amour-haine plutôt vers l'amour?
Oui, mais moi, je l'aime le stade. Moi, honnêtement, j'ai pas besoin de ça. Je parlais collectivement.
Non, mais vas-y. Il y a une information à savoir. C'est que les gens voient le stade comme un échec. Puis effectivement, on peut pas leur donner tort. Les images des Jeux olympiques de Montréal avec la tour pas finie, ouais. Puis les rottes de béton qui sortent au bout, puis ça, tu vois, extraordinaire. Sauf que... sans doute que devant cet échec typiquement montréalais québécois là, parce que ça a fallu on l'a conçu comme 10 fois le stade là, ouais. On n'en finissait plus de changer les plans puis à un moment donné quand on s'est décidé il restait juste 3 ans puis là il y a eu des grèves etc mais là où il y a de la magie dans le stade comment il s'appelle l'astique, j'aime pas ça quand je cherche un nom je le perds à la dernière minute. Pourtant je me suis présenté aux élections contre lui, je devrais le savoir.
Ben non, au contraire.
Le président de la RIO, Michel Labrec.
OK.
Voyons, que j'ai honte. Alors, Michel Labrec
c'est
raconte...
C'est lui qui devrait avoir honte d'avoir perdu contre toi.
Ah, non. Il avait été fantastique. Il avait été fantastique. Mais Michel Labrec raconte bien quelque chose, c'est que personne au monde n'aurait pu construire la salle olympique, à part les Québécois. Impossible. Nulle part ailleurs. Ouais. C'est pourquoi? Tu regardes la photo.
Ouais.
Un an avant les Jeux.
Ouais.
Il y a rien. Il y a deux petites tours qui sortent de terre. Hey! Tu veux habiter une maison, OK? Tu fais construire un duplex. Puis un an avant que tu rentres dedans, il n'y a rien, tu t'inquiètes. Là, le monde entier s'en venait. Là. Tout le monde disait, voyons donc, ils y arriveront jamais.
C'est pour ça aussi que ça a coûté cher.
Ben oui, trop
cher.
Mais pourquoi ils y sont arrivés? Comment c'est possible de construire un stade en un an de l'amplitude de cette affaire-là gigantesque? Après ça, il faut que tu rentres de l'eau. Il y a des centaines de salles de bain. Il y a des milliers de postes pour les journalistes. Il faut que tu connectes des fils à plus finir, des génératrices, de l'éclairage, du gazon au milieu. Comment ils ont fait en un an? Ben, à cette époque-là, on venait de finir la baie James. On avait des milliers et des milliers d'équipements, des grues, des camions, des tracteurs, et on pouvait, en un claquement de doigts, les mobiliser pour les mettre tout à même place.
C'est intéressant, ça. Tu vois, je ne savais pas cette partie de l'histoire. Je trouve ça extraordinaire. Moi, tu vois, je l'aime le stade pour plein de raisons. Pour l'image, parce que j'habite pas loin, parce que c'est un symbole montréalais. Ceci étant dit, je comprends les gens qui n'en veulent plus, qui veulent plus rien savoir, qui trouvent qu'on met trop d'argent dedans. Moi, le stade, ce que ça évoque pour moi, c'est les échecs de la société québécoise. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que un des problèmes du stade, c'est quoi? La construction, le coût de construction, les retards, les petites magouilles dont on parlait il y a un instant. Et aussi, le manque d'entretien du stade olympique. On n'a jamais réussi à l'entretenir. Puis là, tu te vires de bord puis tu regardes le réseau d'aqueduc de Montréal. Tu regardes les routes au Québec également. Tu regardes la difficulté qu'on a à construire des RPA, par exemple. Les maternelles, 4 ans, ça a pris combien de temps? Là, on a besoin de maisons d'hébergement pour femmes en difficulté. Encore dans les tergiversations, on ne sait pas sur quel pied danser. Ça prend du temps avant que ça débouche. Ça prend du temps avant de prendre une décision. Et j'ai l'impression que depuis 40 ans, c'est ça qu'on vit dans les grands projets. Regarde le REM. Moi, c'est un peu ça. Moi, c'est le lien. Aujourd'hui, je me disais, mais voyons, comment ça, là? Encore des retards, encore des problèmes, encore on repousse. La première partie du REM a été faite. C'est bon, ça tient. Oups, non, entretien, moins de voitures. Oups, oh non, un arrêt. Oh, c'est pas super bien indiqué. Puis tu dis, c'est quoi le dernier projet qui a réussi ou gros projet où tu te dis, tout le monde est embarqué.